Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos menées tambour battant par une équipe de professionnels aguerris qui chaque matin réussissent cette prouesse d'être parfaitement réveillés et alertes dès 5h du matin. Bon, évidemment, il y a des jours plus durs que d'autres. Découvrez Les Traversées du désert de Céline Dacosta.
Pierre Forté, qui est créateur de Pragma Entreprise, où il était il y a quelques jours au CSE,
ouais,
vous savez, le salon où je ne suis pas arrivée.
Heureusement, Debout les copains, ce n'est pas que l'addiction quasi parfaite de Céline Dacosta à 5h15 du matin, avant que les effets du Lexomil ne soient estompés. C'est aussi l'érudition de Fabrice Dalméda. Le monsieur Histoire d'Europe 1 qui ce matin revient sur le décès hier du comte de Paris, Henri d'Orléans. Il était le prétendant orléaniste au trône de France.
Merci d'écouter Europe 1 ce mardi 22 janvier. Il est 6h, très bon réveil. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mardi 22 janvier. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin,
Céline. Les généralistes débordés avec le virus de la grippe qui est désormais bien installé. SOS Médecins a dû renforcer ses effectifs en Ile-de-France. L'épisode neigeux attendu sur le nord du pays. Déjà des flocons sur la Normandie ce matin. 24 départements en vigilance orange. Parcoursup remanié. Après les critiques de l'an dernier, les candidats peuvent à partir d'aujourd'hui faire leur premier souhait.
Europe 1.
Pas facile d'avoir une place chez son médecin en ce moment et c'est même parfois impossible. Les généralistes sont surchargés en raison notamment de la grippe qui s'est bel et bien installée dans notre pays. Les urgences sont aussi saturées. L'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté ou encore les Hauts-de-France sont désormais touchés par le virus. SOS Médecins à Paris et autour de la capitale a dû renforcer ses effectifs. Le reportage de Pauline Jacquot.
41, c'est le record aujourd'hui.
Enveloppé sous sa couette, Salvatore, 28 ans, grelotte, nausée, maux de tête, courbature. Une grippe extrêmement violente.
Bon, bah écoutez, je suis désolé, mais on va aller faire un petit bilan à l'hôpital. Hein. Vous pouvez pas rester comme ça.
Surtout, ne pas prendre de risques avec le virus, insiste le docteur Antoine Smania. C'est le 8e cas aujourd'hui.
Antoine, terminé.
Il y a une montée en puissance déjà ce week-end. Ça a commencé ce week-end, une montée en puissance. Là, on est vraiment dans la courbe ascendante de l'épidémie de la grippe. Le prochain patient, le standard a noté douleur abdominale, nausée, courbature. Le mot courbature, depuis quelques jours, depuis une semaine, nous oriente quand même fortement vers la grippe.
Grippe intestinale pour Alan et sa fille de 9 ans. Ce jeune papa dit avoir complètement oublié de se faire vacciner.
Je me suis occupé de ma fille et après, là ce matin, c'est... J'étais un peu, j'étais pas trac, je commençais à avoir, j'avais de la fièvre aussi, et mal à la tête, courbature. Et ma fille, c'était hier.
Les cas vont encore se multiplier en Ile-de-France. Selon le médecin Antoine Smania, le pic devrait être atteint d'ici 2 semaines.
Reportage est signé Pauline Jacquot. 24 départements sont ce matin en vigilance orange. On attend de la neige. L'Ile-de-France devrait particulièrement être touchée. Vitesse limitée à 80 km/h. La Nationale 118 est fermée aux poids lourds depuis quelques minutes. Les saleuses sont en action pour éviter que les chaussées ne deviennent glissantes.
Les inscriptions vers l'enseignement supérieur sont lancées à partir d'aujourd'hui.
Les lycéens vont pouvoir se rendre sur la plateforme Parcoursup, plateforme qui a été modifiée après les problèmes rencontrés l'année dernière. Un chiffre, 54% des lycéens affirment que la procédure Parcoursup n'est pas simple et ils sont 57% à être stressés par cette formulation de vœux. Jean-Christophe a 2 fils en terminale, lui est plutôt serein.
Non, je ne suis pas inquiet, je trouve ça pratique et bien fait.
Et vos enfants, est-ce qu'ils sont inquiets?
Je pense qu'eux ont une inquiétude qui est plus sur... Le fait de devoir se presser, le fait de devoir choisir, qu'on rajoute de l'angoisse à une angoisse qui est en plus celle de l'enfant qui passe à l'âge adulte. On parle de sélection, on parle tout le temps de sélection des enfants et ça les angoisse énormément. Ce que je remarque au niveau des miens, c'est qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller dans le monde adulte, professionnel, etc. parce qu'ils se disent c'est un enfer.
Jean-Christophe au micro de Virginie Stallman pour Europe 1. Alexandre Benalla a affirmé face au sénateur hier qu'il n'avait pas menti au sujet de ses passeports diplomatiques. Interrogé à plusieurs reprises sur l'attribution et l'utilisation de ses passeports, l'ex-collaborateur de l'Élysée a refusé de répondre.
Hier à Versailles, Emmanuel Macron a reçu 150 patrons du monde entier.
Objectif promouvoir l'attractivité économique française, sommet organisé pour la seconde année consécutive mais dans un contexte différent, en pleine crise des gilets jaune. Le chef de l'État s'est exprimé face aux dirigeants en anglais en insistant sur l'importance des classes moyennes.
Partout dans le monde, vous avez cette réaction des classes moyennes qui se disent « Je n'ai plus ma place dans cette société ». Ce que nous devons faire, c'est redéfinir un projet de société qui inclut cette classe moyenne. Car le jour où les sociétés modernes s'écrouleront, où les économies modernes disparaîtront, c'est parce que ces classes moyennes ne se projetteront plus dans le futur et aucun d'entre vous ne réussira. Notre challenge, c'est de trouver un modèle qui permet un futur pérenne pour vos entreprises et des perspectives pour toutes les classes sociales. Je refuse de sacrifier la productivité de la France en augmentant le salaire minimum, mais j'ai accepté de faire des gestes comme baisser les impôts pour envoyer un message à ces travailleurs en leur disant « Je suis avec vous ».
Un propos recueilli par Maud Descamps pour Europe 1. Le président français qui sera aujourd'hui aux côtés d'Angela Merkel à Aix-la-Chapelle en Allemagne, il va signer une version renouvelée du traité de l'Elysée de 1963, traité qui entend donner un nouveau souffle donc à l'Europe. Pour la énième fois, le tribunal de Tokyo a rejeté cette nuit une demande de libération sous caution pour Carlos Ghosn, le patron de Renault, est derrière les barreaux depuis 2 mois.
Europe 1, il est 6h04.
Depuis hier, on connaît l'édition 2019 du Guide Michelin. Une dizaine de femmes chefs ont décroché de nouvelles étoiles.
Oui, c'est un record, il n'y en a jamais eu autant. 10 repartent avec une étoile et une femme en obtient 2 à leur jumet.
Il y a d'abord les confirmés comme Stéphanie Lequelec qui arbore une 2e étoile pour son restaurant La Seine à l'hôtel Prince de Galles à Paris. Une jolie récompense pour cette battante qui a commencé en cuisine à l'âge de 14 ans.
C'est l'émotion, c'est on réalise pas et en même temps elles sont là. C'est un travail accompli en 5 ans pour accrocher 2 étoiles sur cette belle maison, c'est énorme.
Et puis il y a de jeunes chefs qui gagnent une étoile parfois avec de tout nouveaux établissements. C'est le cas d'Amélie Darvas. Elle a quitté son restaurant parisien pour créer les Ponèmes à Vaillant, un village de 150 habitants près de Montpellier. Et cette reconnaissance, elle la dédie à toutes les femmes chefs.
Il n'y a pas de volonté de faire de quotas. Je pense que c'est très bien qu'il y ait des femmes. On en parle de plus en plus, c'est super. Il y a plein de femmes dont on ne parle pas. Il y en a, je pense, à peu près 600 en France. Moi, je suis hyper honorée de pouvoir les représenter aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup.
Reste encore une marche à franchir, celle des 3 étoiles. À ce jour, l'indétrônable Anne-Sophie Pic est la seule femme à avoir décroché le Graal.
Un reportage signé à Laure Jumet pour Europe 1.
Merci beaucoup, c'était le journal de Céline Kallmann. Et à la question que se pose peut-être votre mari Céline, à savoir, s'est-il passé quelque chose de muettement torride entre nous hier? Voici un élément de réponse. Céline Kallmann vient d'entrer dans ce studio. Elle m'a touché la main, elle m'a dit « J'ai extrêmement froid, Mathieu, je suis gelé, frigorifié, il fait froid. »
C'est vrai.
Je laisse M. Kallmann se forger son opinion.
Il est 6h06, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et ce matin, Fabrice Dalméda revient sur le décès hier du comte de Paris, Philippe d'Orléans, qui était le prétendant orléaniste au trône de France.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo de ce mardi avec vous, Céline, car la neige arrive.
Mais oui, c'est vrai, on a déjà les premiers flocons en Normandie, dans le Perche également, le Pays de Caux. Les premiers flocons qui vont se décaler ensuite vers l'Est seront touchés toutes les régions entre les Hauts-de-France, la région centre ce matin, entre la Champagne-Ardenne et le Massif central pour cet après-midi. Des averses pour l'Ouest et puis un petit peu plus de soleil sur le flanc Est avec des températures encore bien froides, moins 7 à 8 degrés en ce moment.
Merci Céline. Eva.
On continue à parler de météo, puisque depuis ce matin 5h on vous demande si la neige est au rendez-vous chez vous et de nous envoyer toutes vos infos et vos photos sur le hashtag E1neige. Et bien Pascal nous confirme, Céline vous le disiez, il commence à neiger à Bernay dans l'Eure en Normandie où il fait 1 degré et Mika nous dit qu'il fait moins 8 à Charleville-Mézières, c'est sec et brumeux pour l'instant, pas de neige.
Merci beaucoup Eva, merci chers auditeurs.
Europe 1, 5h 7h, Mathieu Noël.
Quand ils nous rejoignent dans ce studio, c'est toujours pour Eva et Céline le même frisson d'excitation. Ce corps fuselé, ses pectoraux semblant vouloir littéralement déchirer sa chemise. Et que dire de ses abdominaux? Tenez Jérôme, levez un peu votre chemise pour voir.
Oh, c'est beau.
Oui, mais attention, on touche avec les yeux les filles. Voici le journal des sports de Jérôme Lacroix. À la une du JDS, la marche en avant se poursuit.
Celle des bleus du handball. J'ai l'impression d'être un peu survendu parfois, mais bon.
Oh, pas du tout.
C'est cette marche en avant, oui, c'est celle des Bleus du handball au Mondial allemand qualifié pour les demi-finales. Alors, qualification atypique, oui, obtenue sans jouer parce que les Croates ont perdu hier soir face aux Allemands. Du coup, ils peuvent plus dans le groupe de qualification rejoindre les Français, mais c'est aussi et surtout parce que les tricolores n'ont pas perdu le moindre match depuis le tout début de la compétition. 6 victoires, 1 nul. Et ça, le joueur Ludovic Fabregas tient à le rappeler.
On est en demi parce qu'on s'est donné les moyens, parce qu'on a gagné quasiment tous nos matchs. On a fait juste 1 nul contre l'Allemagne chez elles, donc on doit aussi notre qualification à nous-mêmes. La volonté tout court, c'est d'être champion du monde. Maintenant, on sait que les matchs sont compliqués, on sait que physiquement, c'est aussi très dur. Donc on va essayer de donner le maximum pour aller plus loin.
Des propos recueillis par Christophe Lamar. Dernier match de groupe demain face aux Croates. Ce sera sans enjeu ou presque. Demi-finale vendredi à Hambourg face à la Norvège, la Suède ou le Danemark. L'Open d'Australie de tennis. Et à l'instant, qualification pour les demi-finales du jeune grec Tsitsipas, 20 ans. Le tombeur de Federer a battu en 4 manches l'espagnol Bautista Agut. Dans la matinée, Nadal face au jeune américain Tiafoe. Et puis demain, Lucas Pouille revigoré, dernier français opposé au canadien Raonic pour une place en demi-finale.
Le foot, Jérôme, est en retour vers le passé.
Oui, avec cette affiche aujourd'hui, les Lillois qui se déplacent à 7. C'est la Coupe de France, début des 16e de finale. Deux clubs chargés d'histoire. Lille, premier champion de France en 1933. 7, deux fois vainqueur de la Coupe dans les années 30. Les Sétois aujourd'hui en 4e division. Et avec la réception des Lillois, les fans héraultais espèrent retrouver les grandes heures. Écoutez Manu Piguer, il est le président du club des supporters.
Il fait partie des premiers clubs à avoir été champion de France, hein, dans l'histoire du football français. Disons qu'il y a un sacré écart en termes de budget, de division, de structure footballistique, mais rien n'est impossible.
7 Lille, coup d'envoi 21h comme Monaco-Metz, puis à 18h30 on aura Nancy-Guingamp, Toulouse-Reims, Villefranche-les-Herbiers et puis Andrézieux, vous savez, les tombeurs de Marseille, oui, le tour précédent. Ils joueront face à Lyon-Duchère.
Ils ont des chances du coup ?
Ils ont des chances, ben oui absolument. Au PSG, Adrien Rabiot a saisi la commission juridique de la Ligue.
Ah ben oui.
Le milieu de terrain écarté du groupe professionnel depuis l'échec des négociations sur la prolongation de son contrat considère que le club ne respecte pas la charte du foot professionnel et il demande sa réintégration.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
D'où l'on reparle de l'affaire du fichage ethnique au PSG, justement. Vous savez, des cases français, maghrébins, antillais ou africains à cocher sur les fiches de recrutement de jeunes joueurs observés. La commission de discipline de la Ligue se réunit à 17h30 pour statuer sur une affaire par ailleurs toujours soumise à une enquête de la justice.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix et tout de suite, GG, on passe à la rubrique histoire de notre matinale. La chronique de Fabrice d'Almeda, une chronique qui s'écoute en direct, bien sûr, mais idéalement en podcast.
En mangeant une tête de veau.
Évidemment.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Almeida.
Bonjour à tous.
L'héritier putatif du trône de France, Henri, comte de Paris, est mort hier. Quelle trace laisse-t-il dans l'histoire ?
Une empreinte modeste, mais réelle, pour ce descendant de Louis XIV, né en 1933. Celle d'un patriote d'abord, puisqu'il a choisi les armes pour défendre la France dans sa jeunesse. Il a été soldat en Algérie, décoré. Il a servi 11 ans dans l'armée, notamment comme officier dans la Légion étrangère. Puis il est entré dans les affaires, mais son empreinte médiatique est bien plus forte.
En quoi consiste-t-elle ?
La presse se régalait des tensions entre Henri, prince héritier de la couronne de France, et son père, qui portait le même nom, Henri d'Orléans, comte de Paris. Or, son père, en 1987, a tenté de l'exclure de sa succession. Il a choisi pour héritier le propre fils d'Henri, Jean, élevé au titre de duc de Vendôme. Décision aussitôt contestée par Henri, au nom du droit coutumier, la succession va en primogéniture mâle, c'est-à-dire au premier garçon né. La polémique a duré quelques années, entraînant des brouilles entre Henri et son père Henri, et entre Henri et son fils Jean.
C'est les feux de l'amour, votre truc.
Voilà. Enfin, en 1999, Henri a succédé à son père comme chef de la famille de France. Il s'est empressé de désigner pour dauphin son fils aîné François, victime d'un handicap mental et donc flanqué d'un conseil de régence, et cela déclencha une nouvelle tension avec Jean.
Et aujourd'hui ?
Depuis, François est mort en 2017 et maintenant Jean est le chef de la Maison de France. Peintre à ses heures, Henri d'Orléans aurait aimé que l'on se souvienne d'une de ses aquarelles, un paysage de France dont il était citoyen, plutôt que de toutes ses vaines polémiques.
Merci beaucoup Fabrice Almeida. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1.
Et 6h14, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures de bonne humeur, d'actu et d'invités qui la font. À 6h20, alors que l'acte 10 des Gilets jaunes ne semble pas devoir être le dernier, nous accueillons François Dufour, rédacteur en chef du Petit Quotidien, pour savoir comment ce mouvement des Gilets jaunes est perçu par les enfants. Mais d'abord, un interlude musical de qualité, et il ne peut en être autrement, car à chaque disque diffusé, Céline Dacosta et Varrock veillent au grain.
Ah, je sais à quoi ça me fait penser.
Vas-y, dis, c'est quoi ? Ah, Messieurs Stromae.
Oh là là, les copieurs, quoi. Une originalité.
Mais il a participé peut-être, Stromae, non ?
Attends, on va regarder. Parce que si c'est ça, bon... Si c'est ça, il s'est pas foulé.
Lui, il s'est foulé. Dermot Kennedy, Power Over Me sur Europe 1. I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly. Cause then I'm out running the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. You got that power over me. You got that power. We had a way you never tell. You decide if darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. Woo! I know that I let it down, oh. Let it down, oh. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. Got that power over me. Power over me, Dermot Kennedy, non pas Douglas Kennedy sur Europe 1, qui est un film.
Europe 1. Il est 6h17, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures de bonne humeur pour démarrer la journée, le sourire relève, c'est vrai, mais toujours avec une grande rigueur journalistique. Incarnée notamment par celle qui vise clairement le prix Albert Londres 2019 avec son formidable reportage sur la terrasse d'Europe 1 hier. Son but, nous commenter en direct l'éclipse de lune, une mission presque réussie.
Et oui, gauche. Je sais ce que vous voulez me dire, mais je ne peux pas les voir parce qu'il y a un immeuble qui gêne.
Bravo quand même, Eva. À suivre, on vous renverra sur la terrasse. Ça donne des bonnes choses. À suivre, le mouvement des Gilets jaunes occupe toutes les conversations des adultes, mais qu'en pensent les enfants? Comment vivent-ils ce mouvement? Comment leur en parler? Nous serons avec François Dufour, rédacteur en chef du Petit Quotidien, qui consacre un dossier spécial aux Gilets jaunes.
Il est 6h20, toute l'actualité avec vous Mathieu Noël.
24 départements du centre et du nord, dont Paris, placés en vigilance orange. Un épisode neigeux hivernal attendu sur un grand quart nord-est du pays aujourd'hui. Parcoursup, top départ pour la saisie des vœux. Depuis ce matin, les futurs bacheliers et les étudiants en réorientation peuvent saisir leur souhait de formation dans l'enseignement supérieur. Enfin, se qualifier sans jouer, la France a son billet pour les demi-finales du mondial de handball sans avoir mis un seul pied sur le parquet grâce à la victoire de l'Allemagne sur la Croatie hier soir.
Europe 1,
5h, 7h. Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce mardi 22 janvier. Et l'actualité, c'est toujours le mouvement des Gilets jaunes et qui fait parler dans les cafés, dans les bureaux, dans les repas de famille, mais aussi dans les cours d'école. Cette actualité se retrouve d'ailleurs dans leurs jeux, pendant les récréations, comme en témoigne Tania, 9 ans, que notre reporter Hélène Terzian a rencontré dans une école de Paris.
Dans la cour d'école, les élèves, ils ont fait une espèce de manifestation. Il y en a qui étaient contre, il y en a qui étaient pour. Tout le monde a commencé à crier, commencé à se bousculer. Les pour, ils disaient Macron démission. Et ceux qui étaient contre, ils disaient on en a marre des casseurs. Tout ce qu'ils font, ils cassent, ils tuent des gens.
Bonjour François Dufour.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et rédacteur en chef de différents journaux pour enfants, notamment Le Petit Quotidien ou L'Actu. Tout d'abord, est-ce que vous êtes surpris par ce témoignage? Est-ce que ça occupe vraiment l'esprit des enfants, cette actu des Gilets jaunes?
Oui et non. Oui, parce que les enfants ne vivent pas sur la planète Mars. Ils vivent, comme vous le savez, dans la même vie que la vôtre. Et donc, ils voient les images à la télé, ils vous écoutent à la radio, etc. Et non, parce que c'est quand même pas leur préoccupation première. Je pense que les enfants à la récré, ils jouent davantage à chat ou au foot
Justement, François, j'ai vu un reportage sur une chaîne d'actu qu'on ne citera pas, où on voit que les enfants ne jouent plus aux cow-boys, aux indiens, mais parfois même aux gilets jaunes et aux CRS maintenant. Non, vous avez eu des retours là-dessus?
Et oui, non, c'est vrai, c'est vrai, mais je pense quand même que chat et le foot l'emporteront.
Alors donc, depuis plusieurs semaines, difficile en effet pour les enfants d'échapper aux conversations d'adultes et aux images qui tournent en boucle à la télévision. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent dans votre courrier des lecteurs?
Alors, c'est pas vraiment le courrier des lecteurs, mais nous, on utilise un playback des rédacteurs en chef juniors pour être sûr de coller à ce qu'ils ont vraiment envie de lire. Parce qu'il y a une gageure qui est quand même qu'on fait des journaux quotidiens et donc il faut les faire lire 10 minutes par jour. Et donc, on a fait un appel aux questions et on a fait effectivement un numéro spécial du Petit Quotidien pour les 7-10 ans pour répondre à leurs questions. Ça tournait beaucoup autour de la violence.
C'est les images de violence qui les ont marquées.
Pourquoi la violence? Est-ce que, une question qui m'a beaucoup amusé parce que c'était vraiment une tournure enfant, est-ce que les policiers aussi peuvent faire mal?
Oui, ah, d'accord. Oui, oui.
Et puis, est-ce que la violence va continuer? Les casseurs, etc. Donc oui, c'est vraiment...
Justement, déjà que c'est compliqué pour les adultes de distinguer la violence, les gilets jaunes pacifistes, des casseurs, tout ça, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Comment on leur explique? Comment on leur présente la situation?
Alors d'abord, on leur parle enfant. Parce que si vous dites pouvoir d'achat, fin de mois, casseur, flashball, etc., il faut quasiment, c'est du jargon pour eux. Donc déjà, il faut se mettre à leur niveau. Et puis ensuite, on fait les mêmes réponses que vous. On fait du journalisme objectif et neutre. Objectif, c'est-à-dire que des faits, pas d'opinion. Et neutre, c'est-à-dire que quand on donne des opinions d'un côté, on donne aussi des opinions de l'autre en équilibre. Ce qui est plus difficile sur les gilets jaunes, si vous me permettez,
oui, bien sûr.
C'est qu'il y a une tentation de montrer des photos très frappantes et des photos très frappantes autour des gilets jaunes, des manifs, etc. On en a tout le temps et il faut un peu se freiner pour pas être absorbé par évidemment l'impact de ces photos, mais on peut pas en mettre tous les jours, il se passe d'autres choses dans le monde.
Bien sûr, Eva Rock.
Pour les adolescents qui cherchent tout seuls leurs réponses à leurs questions sur internet, quelles sont les mises en garde et les conseils que vous leur donnez?
Je leur conseille de s'abonner au journal, au journal L'Actu et d'écouter Europe 1. Non, mais c'est du bon sens.
Ils comprennent pourquoi il faut vérifier l'information, vérifier les sources de leur
info. Je pense que le sujet fake news est vraiment dans leur esprit maintenant. Moi, si j'ai un conseil à donner aux ados, c'est demande-toi toujours qui donne l'info et est-ce qu'il a un intérêt particulier à donner l'info. Si c'est un journaliste, c'est son métier. Si c'est un éditorialiste engagé, etc., c'est déjà un peu différent. Et si c'est la France Insoumise ou le Front National ou même le président Macron, la source.
Sur l'importance de parler, de tenter d'expliquer aux enfants ce qui se passe avec les gilets jaunes, une psychologue, Geneviève Genati, dit on peut aussi comparer le mouvement à eux-mêmes, à leur propre vie, et leur dire c'est exactement comme lorsque tu es en colère, que tes parents n'écoutent pas, et donc tu es encore plus en colère. Là, il y a beaucoup de personnes en colère en même temps. Est-ce que c'est bien de rapprocher ça de leur quotidien pour qu'ils puissent comprendre?
Bon, là, c'est pas mon domaine. Moi, je fais du journalisme, je fais pas de la psychologie.
Vous faites pas
de
conseils.
J'ai la réputation de pas être très psychologue. Non,
je botte en touche. C'est important d'expliquer aux enfants cette actualité.
Sinon, ils peuvent passer des choses dans leur tête.
Non, là, vous avez raison, c'est qu'il faut contextualiser. Et ça, c'est sûr que c'est souvent le défaut des journalistes qui prennent des petits bouts, des petites phrases, ce que je disais tout à l'heure, une photo, etc. Et donc, nous, on contextualise énormément. Mais pour vous... pour repartir de ce que vous dites, on demande aux enfants les sujets qui les intéressent et on a testé un sujet qui était « Mes parents sont gilets jaunes ». Et sur les 25 numéros du mois, c'est le sujet qui les a le plus intéressés. Ouais. Donc ça veut quand même dire que c'est rentré dans les familles et que probablement certains enfants ont adhéré aux idées de leurs parents.
Merci beaucoup François Dufour. On rappelle que vous êtes cofondateur, rédacteur en chef de différents journaux à destination des enfants et des ados comme L'Actu, Mon Quotidien et Le Petit Quotidien. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1 ce matin.
Je vous en prie.
Europe 1, il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et la neige arrive.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Juste avant le journal, on fait un point sur la météo avec vous, Céline.
Oui, avec 24 journée, départements en vigilance orange pour neige et verglas. La perturbation pluvieuse est déjà là, comme prévu, hein, sur la Bretagne, le Cotentin, les Pays de la Loire. Et puis, en arrivant sur les sols bien froids, cette pluie se transforme en neige. On a déjà observé les premiers flocons entre la Seine-et-Marne et l'Orne. On continue à, évidemment, à vous informer de l'évolution de cette masse neigeuse qui devrait toucher la région parisienne, les Hauts-de-France et la région centre. Neige qui devrait tenir au sol. Plus à l'est, le soleil sera présent, mais voilé à l'approche de la perturbation. À la mi-journée, on va retrouver cet axe neigeux entre la Champagne-Ardenne, l'ouest de la Bourgogne et Seine-et-Marne, l'est du centre et du Limousin. Pour l'ouest, ce sera pluvieux. Pour l'est, encore un petit peu de soleil. Tout ça sous des températures encore très très froides.
Merci Céline.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire, notamment grâce à l'impayable Eva Rock. Car connaissez-vous le comble pour un journaliste qui fait un papier sur quelqu'un souffrant de bégaiement ? Eh oui, vous l'avez deviné, se mettre à bégayer lui-même.
Handicapé par un bégaiement, si vous voulez comprendre ses comment je vais y arriver.
Bravo Eva ! À suivre, des pros à l'addiction parfaite. Politique, économie, médias, les trois fantastiques vous montrent le chemin dans la jungle de l'actu. Au programme aujourd'hui, cette question... Comment exister lorsqu'on est ministre à l'heure du grand débat ? Et puis ce sondage, la réforme des retraites, les Français disent oui, tant qu'on peut partir à 62 ans.
Vous écoutez Europe 1, 6h30. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Une audition pour pas grand-chose, je ne pourrai pas répondre. Cette phrase, Alexandre Benalla l'a répétée plusieurs fois hier devant des sénateurs ostensiblement agacés. Theresa May cherche désespérément de l'oxygène. Son plan B a immédiatement été vilipendé par les députés correspondants à Londres dans ce journal. Et puis nous conclurons avec un spectacle que les auditeurs d'Europe 1 auront sans doute envie d'aller voir. Notre humoriste Anne Roumanoff rôde un nouveau One Woman Show. Il y aura quelques extraits à la fin de ce journal. Et vous rirez, Mathieu, je vous le parie.
Europe 1.
Beaucoup de zones d'ombre après une audition parfois tendue. Alexandre Benalla était pour la seconde fois devant les sénateurs de la commission des lois hier. Il a bien souvent refusé de répondre en se retranchant derrière l'instruction judiciaire en cours. Compte rendu, Aurélie Herbemont.
2 heures d'audition, des erreurs reconnues et une réponse quasi systématique.
Je ne pourrai pas répondre à cette question qui porte sur une information judiciaire qui est en cours.
Alexandre Benalla esquive souvent en se réfugiant derrière l'enquête judiciaire, mais il est formel, il n'a pas menti lors de sa première audition sur ses passeports. Le 19 septembre, ils étaient bien à l'Élysée. Il explique les avoir restitués en août, mais une personne de l'Élysée les lui a rendus.
Ils m'ont été rendus début octobre, et c'est une connerie de ma part de les avoir utilisés au vu de la polémique qui est sortie après.
Ils ont été rendus par qui ?
Attends, je vous ai déjà dit que je ne répondrai pas à cette question, monsieur le co-rapporteur.
Soupçonné d'avoir été protégé par l'Élysée, Alexandre Benalla assure ne détenir aucun secret. Mais à la sortie, le président de la commission, Philippe Bas, se demande toujours pourquoi tant de dysfonctionnements.
Y a-t-il eu simplement négligence de la part des services de l'État ou y a-t-il eu une forme de protection qui lui aurait été accordée ? Ce dilemme n'est pas résolu complètement aujourd'hui.
La commission d'enquête est formelle, il reste beaucoup d'invraisemblances à lever.
Aurélie Herbemont. Météo France nous met en garde contre un épisode neigeux hivernal habituel. 24 départements ont été placés en vigilance orange, dont dans un quart nord-ouest du pays. Les chutes de neige devraient commencer en fin de nuit sur la Haute-Normandie et l'ouest de la Picardie, avant d'atteindre le bassin parisien au petit matin, puis la Bourgogne et la Champagne dans la journée. Son plan B a immédiatement été décrié comme un plan A à peine réchauffé. Theresa May était hier dans le chaudron du Parlement britannique. Elle dit vouloir à nouveau renégocier le traité de retrait du Royaume-Uni avec Bruxelles. À Londres, les députés perdent patience. Correspondant sur place, Anaïs Cordoba.
Theresa May n'a pas encore détaillé son plan B que les railleries fusent déjà dans la Chambre des communes. Rien n'a changé, s'écrit une députée travailliste. La suite lui donne raison. Theresa May annonce vouloir renégocier avec Bruxelles. Une proposition aussitôt tournée en ridicule par le leader des travaillistes, Jeremy Corbyn.
Mais qu'est-ce qui vous fait penser que ce que vous avez échoué à négocier en décembre finira par réussir en janvier ? Là, on va commencer à se croire dans un jour sans fin.
Les discussions du week-end entre le gouvernement et les partis d'opposition n'ont servi à rien. Les lignes rouges de la Première ministre n'ont pas bougé d'un pouce.
Votre porte est ouverte, mais votre esprit est fermé. Vous refusez d'écarter la possibilité que nous sortions de l'Union européenne sans accord. Tout tout en sachant que ce serait un désastre.
Accusée de placer les intérêts de son parti avant ceux de son pays, Theresa May refuse de virer de bord vers un Brexit soft, seule option majoritaire mais qui risque la scission du Parti conservateur. Ce choix pourrait bien finalement lui échapper. Dans les prochains jours, des députés vont déposer des amendements donnant au Parlement un contrôle accru sur le processus du Brexit. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et puis au Japon, Carlos Ghosn reste en prison au moins jusqu'au 10 mars. Sa nouvelle demande de libération sous caution a été rejetée par le tribunal de Tokyo.
À suivre dans ce journal, vous ne le savez peut-être pas, mais des pirates essaient d'accéder à votre téléphone. On vous explique et on vous donne des conseils. À tout de suite.
Il est 6h34.
Europe 1.
Tout à l'heure vers 7h25, retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Aux côtés des clients et des territoires, EDF se mobilise pour la transition énergétique. Plus d'informations sur edf.fr.
Il est 6h35, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, le Forum international de la cybersécurité ouvre aujourd'hui ses portes à Lille.
Oui, zoomons sur ce qui constitue la principale menace du moment, les piratages des smartphones. C'est une cible facile pour des cybercriminels qui utilisent de fausses applications. Aude Leroy.
Difficile de résister à des applications gratuites pour obtenir le jeu à la mode comme Fortnite ou Super Mario l'an dernier ou quand on ne veut pas louper tel match de foot au moment du mondial. Des applis qui normalement sont payantes. Sauf que systématiquement, c'est à ce moment-là qu'un pirate se glisse dans votre smartphone et les conséquences peuvent être graves pour votre portefeuille. Détail Jérôme Billois de Wavestone.
On a les applications bancaires avec l'accès à nos comptes, avec voir où en est votre solde, voire même jusqu'à valider certains virements en détournant les SMS que vous recevez pour valider ces opérations. Et puis, ça peut aller aussi sur votre facture téléphonique, parce que les cybercriminels peuvent lancer des appels à l'étranger ou appeler des numéros surtaxés.
Un simple téléphone peut aussi déverrouiller votre voiture ou votre maison. Alors, pour éviter l'escroquerie, faites régulièrement les mises à jour de votre smartphone et utilisez des mots de passe différents selon les applications.
Aude Leroy pour Europe 1.
Vous m'avez promis, David, que j'allais rire à la fin de ce journal, alors allez-y. Écoutez-vous.
Je n'ai pas pris un gros risque.
Ah.
Car savez-vous que notre collègue ici à Europe 1, Andrew Manoff, est de retour sur les planches avec
Je le sais, je l'ai interviewé.
Donc vous connaissez ce nouveau One Woman Show qui est actuellement en rodage. Diane Chenouda est allée voir le spectacle dans une petite salle à côté de Reims.
Tout va bien ? Non, bien sûr, rien ne va. Mais on en rit avec Andrew Manoff.
Romain, je ne veux pas te brutaliser, mais il faudrait que tu réfléchisses à ce que tu as vraiment envie de faire. Et il m'a dit, c'est vrai. Et il m'a dit, maman, je peux te le dire maintenant, j'aimerais être sage-femme ou ébéniste. Et là, j'ai dit, Romain, tu prends ton temps. Tu n'as que 29 ans.
Plus libre et mordante que jamais, tout y passe et tout nous parle. Les femmes divorcées et les sites de rencontres foireux.
Le mec qui arrive et qui dit, ouais, moi... J'ai pas mal butiné, j'ai beaucoup papillonné. Là, t'as juste envie de lui dire, pas la peine de sortir ton dard, moi les insectes, ça me file le bourdon.
Et ces perles de bistrot sont un régal.
Celui qu'on va finir par regretter, on n'aurait jamais cru, c'est Hollande. Hollande ne faisait rien, mais il le faisait bien.
Elle est excellente. C'est plein de fraîcheur.
C'est super bien, c'est la troisième fois qu'on la voit et on s'en lâche jamais. Hein, c'est un vrai petit bout de bonne femme, mais alors elle a un talent fou.
Elle dit beaucoup de vérité.
Quel talent, oui. Andrew Manoff nous fait un bien fou.
Diane Chenouda du service culture d'Europe 1.
Et oui, tout va bien, le nouveau spectacle d'Andrew Manoff, un événement Europe 1. Andrew Manoff en tournée avant le Casino de Paris, les 29, 30 et 31 janvier. Andrew Manoff qu'on retrouve bien entendu sur Europe 1 dans son émission tous les jours de 11h à 12h30.
Allez-y, Mathieu.
Je voulais simplement vous remercier, David, pour ce journal de qualité. C'était le journal de David Doucan, présentateur du journal de 6h30 et dragueur de Céline Dacosta, avec qui il est en train de parvenir d'ailleurs, à force d'acharnement, à certains résultats.
T'as bonne mine aujourd'hui, Céline, je trouve.
Arrête, non, c'est pas vrai.
Ouais, c'est sans doute ce joli pull Angora de couleur crème.
Je vais l'enlever d'ailleurs.
Bien joué, David.
J'ai chaud.
On passe à la météo avec votre dulciné. Remettez ce pull, s'il vous plaît, Céline.
En plus, j'ai chaud, je vais sûrement enlever celui-ci aussi.
Et pourtant, il fait froid.
Vous voyez ?
Paradoxe.
Non, mais pas là. Là, il fait chaud quand même, non ? Non, vous n'avez pas chaud. Bon, d'accord. Alors, 24 départements.
Elle est authentiquement troublée, en fait. Hein. Ouais. Moi, je fais mes conneries, mais en fait, elle est troublée par David.
Mais c'est vos blagues, Mathieu, qui sont tellement excellentes.
Ça doit être forcément.
C'est ça.
Enchaînons, ma fessine arrive.
Allez, 24 départements, vigilance orange pour neige et verglas de la région centre-Hauts-de-France en passant par la région parisienne. On observe déjà les premiers flocons de la Seine-et-Marne alors.
Bornes. On attend 2 à 5 cm sur ce secteur, un petit peu plus dans l'après-midi, quand la perturbation se décalera vers l'est. La Seine-et-Marne, la Bourgogne devraient être les plus touchées avec 5 à 8 cm. Pour les autres, ce sera pluvieux sur l'ouest et encore ensoleillé sur une frange est. Ciel perturbé en revanche toute la journée pour la Corse, le tout sous des températures bien froides. Moins 7 à 8 degrés pour ce matin, moins 1 à 9 degrés pour cet après-midi.
Merci Céline.
Europe 1. Et il est 6h40, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures d'actu saupoudrées de fantaisie, ce qui n'empêche pas la rigueur professionnelle. En effet, savoir se remettre en cause, tirer le bilan de ce qu'on a fait la veille, c'est comme ça qu'on progresse journalistiquement. Eva, on regarde le site sur votre prestation d'hier.
Moi j'ai fait des pommes de terre au curry, c'est très très bien.
Bien, à suivre. Les trois fantastiques arrivent, politique, économie, médias. Axel de Tarlet reviendra notamment sur un sondage où les Français se prononcent pour la réforme des retraites, pourvu qu'on puisse toujours partir à 62 ans.
Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Il arrive, l'épisode neigeux, mise en garde de Météo France, 24 départements en vigilance orange dans un quart nord-ouest du pays. Une audition mais peu de réponses. Alexandre Benalla a été pour la seconde fois devant les sénateurs de la commission des lois hier. Il a juré ne pas avoir menti lors de son précédent passage le 19 septembre dernier, mais il a refusé de donner le nom du salarié de l'Élysée qui, selon lui, lui aurait rendu ses passeports diplomatiques en octobre 2018. Enfin, 12 gilets jaunes ont été interpellés dans la région de Narbonne. Ils sont suspectés d'avoir participé en décembre à l'incendie d'un péage sur l'autoroute A9. Les 12 personnes arrêtées par les gendarmes vont être présentées à un juge d'instruction.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils sont au journalisme ce que Lucas Pouille est au tennis français. Une fierté, enfin parfois. Merci d'accueillir les trois fantastiques. Eva Roque pour la télé, Axel de Tarlet pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. Mickaël qui hier s'est trahi. Ah oui, il nous faisait croire qu'il écoutait religieusement Europe 1 dès 5h15 du matin. Il mentait.
Il y a un seul truc que les gens disent pas sur le truc de Versailles aujourd'hui, c'est qu'on est le 21 janvier et c'est le jour de la mort du roi.
T'écoutais notre matinale,
on l'a dit,
on a fait une chronique dessus. Non, c'est historique.
Ça a été la chute de mes papiers. Trois fois, j'ai dû le faire.
Donc, parmi les bonnes résolutions pour 2019, notez Mickaël, on arrête d'écouter RMC. Hein, on commence néanmoins par vous, Mickaël. Le prochain débat marathon d'Emmanuel Macron, ça sera en Seine-et-Marne. Pendant ce temps, le gouvernement est spectateur. Vous nous dévoilez un peu l'envers du décor de ce Macron tour.
Et oui, parce que je peux vous dire que ce silence des ministres, eh bien, c'est la conséquence de la consigne qui a été donnée au plus haut niveau. Les ministres doivent rester en retrait, à part ceux qui, évidemment, ont quelque chose à dire. Ainsi, le ministre du Budget et son dossier du prélèvement à la source est en première ligne afin de montrer que le gouvernement reste à la manœuvre. Et bien entendu, les deux ministres chargés du débat, hein, Le Cornu et Wargon, les autres sont incités à rester discrets, en retrait, pour une quinzaine de jours, le temps de voir les premiers effets du grand débat national qui doit subir le moins d'interférences possible. Alors, autant dire que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est la consigne. L'enjeu est très important pour l'Élysée parce que, au fond, dans une certaine manière, avec les marathons du président Macron, et bien dans ce contexte, le mois de janvier reste un peu le mois de la parole présidentielle, hein, comme il se doit, sauf qu'au feu, au lieu d'enchaîner des vœux, Emmanuel Macron tente de répondre aux vœux et doléances des Français.
Et on constate que la consigne n'est pas vraiment respectée par tout le monde, notamment par un secrétaire d'État.
Et oui, il s'agit de Mounir Majoubi, chargé dans le gouvernement du portefeuille du numérique, mais autoproclamé secrétaire d'État au dialogue avec les Gilets jaunes depuis quelques jours. Il admet effectivement que les Gilets changent l'agenda gouvernemental et il le confie, hein, en disant que, par exemple, de son côté, on a décidé de décaler les annonces sur les contenus haineux. On aurait été inaudible, admet Majoubi. Ce qui est audible, en fait, pour lui, c'est parler aux Gilets jaunes. Alors, il multiplie les tribunes, les prises de position, en dialoguant ouvertement avec quelques figures controversées des Gilets jaunes, persuadées qu'il ne faut pas rompre le contact avec eux. Et si ça ne plaît pas en lieu, tant mieux. D'ailleurs, c'est le cas, ça ne plaît pas en lieu. De son côté, Marlène Schiappa, elle, a trouvé également la martingale. La télévision, elle va organiser sur C8 avec Cyril Hanouna une émission sur le débat en direct avec un vote. Elle est persuadée qu'il faut aller chercher les gens qui, d'ordinaire, sont loin de la politique et en particulier, ils sont dans cette émission. Alors tout de même, ils ne sont pas au chômage technique, hein, les ministres, hein, parce que pendant le spectacle politique, le gouvernement continue de travailler quand même, évidemment. Mais alors qu'on leur reprochait il y a quelques temps de ne pas laisser prendre la parole, voilà qui est décrété au gouvernement pour cause de grands débats, la grande quinzaine du blanc médiatique.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon. De la politique, on passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlet. La grande réforme des retraites se précise, les Français sont incités à partir plus tard, mais pas obligés.
Exactement, parce que les sondages d'opinion sont très clairs, pas touche aux 62 ans. Et en ces temps de gilets jaunes, mieux vaut ne pas hérisser les Français. Donc, le gouvernement... Oui, alors, il y a ce sondage. Donc, 64% des Français veulent maintenir l'âge légal de départ à 62 ans. Et donc, pour les inciter à partir plus tard, plutôt que d'utiliser la technique du bâton, on va utiliser la technique de la carotte. C'est-à-dire que si vous partez à 63 ans plutôt que 62, mais c'est un choix, hein, on augmentera votre pension de 3 à 5%. Puis si vous partez à 64 ans, ça sera encore à nouveau 3 à 5%, etc.
Et à 87 ans, là,
vous aurez une énorme retraite. Mais bon, voilà. Donc l'idée, c'est d'utiliser le bonus, mais surtout pas le malus.
Mais ça risque de coûter plus cher. Est-ce qu'on peut vraiment financer un tel système ?
Alors, c'est toute la question, comment financer ? Et la grande chance du gouvernement, c'est que les Français sont parfaitement conscients que notre système de retraite va dans le mur. Donc toujours ce sondage Via Voice, du coup, 55% des Français estiment que cette réforme est indispensable pour pouvoir continuer à financer notre système de retraite sans creuser les déficits. Et ce qui est nouveau, c'est que les Français, pour que ça continue à tenir le choc financièrement, sont prêts à briser tous les tabous, y compris le tabou ultime, la capitalisation. Vous avez véridique sondage, 61% des Français qui sont prêts à ajouter un système de capitalisation, vous voyez, un système d'épargne personnelle qui viendrait accompagner la retraite de base. C'est la chance du gouvernement. On pouvait imaginer que cette réforme des retraites était à haut risque. En fait, elle est demandée et les Français sont prêts à aller loin tant qu'ils ne sont obligés à rien et qu'ils peuvent choisir de partir à 62 ans.
Globalement, on est prêt à faire des efforts, mais pas trop non plus.
Voilà, on va quand même partir comme ça, tôt.
Axel, hein. Bon. Merci beaucoup Axel de Tarlet pour l'économie. Eva Rock, c'était court et percutant, vous êtes exceptionnel. C'est pas pour rien que vous avez été élu Dauphin d'Or. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
La soirée télé, c'est sur France 2 aujourd'hui avec à 21h une nouvelle édition du jeu de culture générale qui est présenté par Nagui. Tout le monde joue. Il est co-présenté ce soir avec Michel Simès puisque le thème est la santé. Alors que penser ?
Nagui et Simès réunis dans les mêmes émissions, c'est les deux animateurs préférés des Français.
Exactement.
Non ?
Alors que penser des conseils santé répétés à souhait ? Vous savez, comment peut-on calmer une piqûre de méduse en urinant dessus ? Le gingembre aphrodisiaque, bien voilà, ils vont répondre à ces légendes ou pas d'ailleurs. Ah. Voilà, avec Michel Simès donc et Nagui. Et puis le jeu
avec
sera
des démonstrations.
Exactement, le jeu sera suivi d'un documentaire qui est intitulé Toujours debout. C'est l'histoire de Vance Bergeron, il est physicien suisse, il est devenu tétraplégique en 2013 depuis un accident de vélo et avec son équipe de chercheurs, il travaille désormais à améliorer le quotidien des personnes handicapées grâce à des technologies de pointe. Au-delà du progrès que constituent ces recherches, il y a aussi les questions existentielles.
Qu'est-ce que on va devenir avec cette intégration de la technologie et l'homme, c'est évident pour un handicap. Je peux récupérer ce que j'avais déjà auparavant, mais c'est différent pour un humain qui a déjà ça et je peux faire plus parce que j'ai cette intégration. Quel rôle va jouer la technologie dans cette évolution des hommes ?
Le documentaire suit ainsi Vance Bergeron dans sa préparation au Cibathlon à Zurich. Car le Cibathlon, c'est une compétition où se côtoient prothèses bioniques, électrosimulation des muscles et autres exosquelettes. C'est une compétition sportive, mais aussi une vitrine des avancées technologiques en matière de santé, avec son lot d'interrogations quant à l'homme réparé, l'homme avancé, hein, comme on dit. Sauf qu'à bien entendre, ces personnes handicapées, elles espèrent avant tout que la science leur permette de chasser la douleur et de gagner en autonomie, pas d'être des Iron Man en puissance. C'est un excellent documentaire qui s'appelle Toujours debout, c'est à voir sur France 2 à 23h05.
Merci pour ces conseils avisés, Eva Rock. Merci aux trois fantastiques qui seront de retour demain peu avant 7h moins le quart. Céline, pour finir, 3 secondes d'un chat qu'on émascule. Prenez vos médicaments quand même. Hein.
5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains, va bientôt passer la main. Nico Saliagas arrive, toujours un moment émouvant pour moi au terme de 2 heures passées en votre compagnie. Ce moment où je vous dis...
Et nous on l'aime toujours Claude François, quoi qu'il advienne.
Ah oui, heureusement le meilleur est à venir, le débrief de la matinale de Nico.
Europe 1, 6h51. Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains s'achève forcément, chers auditeurs, votre cœur se serre et vous n'êtes pas les seuls.Ico Saliagas lui-même est ému. Il n'en pipera mot, fierté grecque oblige, pourtant je sais qu'au fond de lui il m'aime énormément. Non seulement parce qu'il m'a très vite donné un petit surnom affectueux, l'autre Okonos, mais surtout parce que chaque matin quand il me croise dans le couloir, je sais ce qu'il se dit.
Il s'appelle comment ?
Non, quel talent ce Noël ! Voilà le débrief de la matinale de Nikos. Une matinale plus chargée hier en testostérone qu'un quart de rugbyman du stade toulousain se rendant à une troisième mi-temps dans un club de lap dance. Testostérone tout entière émanant d'un seul homme, Nikos, que sa maman aurait mieux fait d'appeler Eros. Aliagas, ça aurait eu le mérite d'annoncer la couleur. Car là, en termes de drague, les fans de la rédaction d'Europe 1 sont débordés. Hein, Nikos joue sur tous les tableaux à la fois. Oh. Hélène Zelani, Céline Kalman, Audrey Crespo-Mara. Alors attention, Eros. Hein. Audrey Crespo-Maro...
Maros.
Audrey Crespo-Maro, c'est un mec. Hein. Pas sûr qu'il apprécie vos citations coquines. En plus, hier, vu l'invité d'Audrey, ça nous a fait un sacré ascenseur émotionnel. Comme si d'un coup, on passait de Dorcel TV à Public Sénat.
Il y a un proverbe grec qui dit « baise la main de celle que tu admires ».
Oh.
Bonjour, Audrey Crespo-Morin.
Quel accueil. Bonjour, Nikos. Bonjour à tous.
Vous recevez qui ce matin ?
Éric Woerth, ancien ministre du budget et des comptes publics.
Ça vous a calmé net, ça. Hein. Avis au sexe addict, mieux que 1000 mg de bromure, Éric Woerth. Et pourtant, l'intenable love machine de Mykonos n'est pas du genre à s'avouer vaincu facilement. Avec les femmes, il applique le vieux précepte de Casanova. Plus c'est gros, plus ça passe.
Alors, elle est belle, l'éclipse ? Pas aussi belle qu'Hélène Zélani. Bonjour, Hélène.
C'est trop gentil.
Casanova Liagas, qui n'oublie pas non plus qu'en matière de séduction,
le
l'humour.
Pauvre,
l'humour est un atout, femme qui rit. Hein. Alors attention, hein, Nico, c'est avec les femmes qu'il faut placer les vannes, pas avec Nicolas Barré, notre spécialiste éco. Sinon, à moins évidemment que je me sois trompé sur vos préférences, c'est un peu du gâchis, car la vanne sur les Japonais était top. Elle aurait même eu sa place dans SS 117.
Nicolas, c'est quoi le fond du problème ?
Le fond du problème, ce qui oppose les Français et les Japonais, c'est le rôle de l'État français en fait.
À manager et à gérer avec des baguettes en fait.
Les Japonais, faut les prendre avec les baguettes. Je salue l'astuce. Eva, conquise ?
Ah, c'est bon, ça.
Carton plein, Eros.
Merci, Mathieu Noël.
Merci. Merci à vous. Bonne journée.
Mathieu Noëlos. Un plaisir. Bonjour, Eva Rock. Bonjour, Céline Dacosta.
Bonjour.
Mathieu Noël. Tous les jours, de 5h à 7h sur Europe 1.